Ok, alors. Donc en fait, dans l'organisation, il va y avoir en gros 40 minutes à peu près d'explication et puis après un débat. On va commencer par parler du projet du lien et de voir ensuite comment il s'intègre dans les processus de métropolisation. S'il y a des redites, parce que probablement quelques-uns connaissent le projet, mais on va tout reprendre depuis le début. Donc en fait, le lien, c'est un projet des années 80. C'est le périphérique de Montpellier, en fait. C'est un périphérique et une liaison autoroutière entre la 75 et la 9. Donc juste le projet du lien, en bref, c'est donc 28 hectares artificialisés, 115 espèces protégées dont les habitats sont détruits. Ça est minimum 35 000 voitures par jour, plus les camions de l'autoroute. Et c'est là, juste sur la partie Pradas, en fait, c'est 100 hectares de terres agricoles détruites, en fait. On pourra en reparler plus longuement de pourquoi. En fait, le département comptabilise uniquement 10 hectares de terres agricoles détruites. En réalité, on en est à beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, c'est pas que les il compte que les terres agricoles en activité détruites. Mais une terre agricole, c'est une terre agricole, qu'elle soit en activité ou pas. Et du coup, qui seront détruites. Donc en fait, tout ce projet, c'est construit sur l'idée qu'il y a beaucoup d'embouteillages à Montpellier et qu'il y a un problème de pollution de l'air. Donc, que pour réduire les embouteillages, il faut construire une nouvelle route. Or, en fait, depuis très longtemps, depuis 1960, on sait que ça s'appelle le trafic induit, c'est que créer des routes n'a jamais réduit les embouteillages. Ça n'a jamais marché dans l'histoire des routes. Jamais, jamais, jamais. C'est très bien documenté. Vous pouvez regarder le trafic induit. La page de Wikipédia est excellente. En fait, c'est simple. C'est parce que il y a une nouvelle route qui se crée. Les gens qui jusque-là prenaient par exemple des itinéraires alternatifs à cause des embouteillages ou alors décaler leurs horaires de travail vont se mettre à utiliser cette voie parce que du coup ça va aller plus vite pendant pas très longtemps. Ensuite, donc ça c'est le report d'itinéraire. Ensuite il y a un report modal, c'est-à-dire que tous les gens qui prenaient d'autres moyens de transport, par exemple les transports en commun, puisque tout d'un coup aller en voiture ça va aller plus vite, ils vont se rabattre sur la voiture. Donc en fait il va y avoir une concentration immédiate du nombre de personnes qui vont prendre cet itinéraire à cette même heure, aux heures de pointe. Et ensuite en fait on se sert surtout des routes pour aller plus loin en fait, plutôt que plus vite. Et donc ça on va pouvoir habiter beaucoup plus loin de son lieu de travail, aller faire ses courses beaucoup plus loin. Et du coup en réalité on va pouvoir urbaniser plus loin, donc il va y avoir plus de gens qui vont utiliser la route, et du coup, dans toute l'histoire des routes, elles sont saturées entre 3 et 10 ans. 10 ans, c'est un grand maximum. Donc on sait que ça ne va réduire les embouteillages pour un maximum de 10 ans. Voilà. Du coup, nous, on s'est demandé, en fait... on ne s'est pas présenté. Je fais partie du collectif SOS Oulala, qui est les opposants au projet du lien. Et on a commencé à détricoter tous les arguments et à comprendre de quoi était le... Quel était le projet qui était derrière le lien, en fait. Parce que, puisque on est à près de 100 millions d'argent public, juste pour ce petit tronçon de 8 km, c'est censé réduire les embouteillages et la pollution. Or, c'est pas vrai, ça n'a jamais marché, en fait. Jamais, jamais, jamais. Donc, en fait, on s'est demandé un peu à quoi ça allait servir réellement, cette route. Parce que c'est un investissement public très important. Et donc, en fait, on comprend, avec tous les projets qui sont des projets annexes, en comparant et les squats de Montpellier et tout ça, et on se rend compte qu'en réalité, c'est pas du tout un projet pour les riverains, c'est un projet pour les industriels et le commerce, en fait. Donc en fait, il y a 70 hectares de ZAC, qui sont zones d'activité commerciale, qui sont déjà prévues, à côté du lien. Et ça, c'est vraiment que ce qui est déjà prévu. C'est des projets dont c'est écrit dans les statuts qu'ils ont besoin du lien pour se construire. C'est pas une affabulation de notre part, on est absolument sûr de ça. Et il y a la réouverture de la carrière de Combaillot, de la carrière Lafarge, qui, elle, va aussi, de façon certaine, donc a besoin du lien pour ses camions, sinon il ne peut pas réouvrir. Et elle va polluer la source d'eau du Redonnel, qui est le nouveau forage qui est prévu pour alimenter tout le nord de Montpellier, donc au minimum 40 000 habitants, parce qu'on a déjà des problèmes de sécheresse. Et donc les sources du Lez ne suffisent plus à alimenter en eau les villages alentours. Donc est prévu un nouveau forage qui est le forage du Redonnel. Or la carrière elle est juste à côté, mais vraiment juste à côté, elle est à 10 mètres en hauteur et à 150 mètres de distance, on est vraiment juste à côté. Donc c'est non seulement la carrière va grandir, mais elle va aussi servir de décharge en fait, de dépôt d'inerte. Voilà. Donc ça, c'est les projets en cascade. En réalité, il faut comprendre, et ça, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais qu'avec une route, avec un accès routier, vont être mises à disposition de la construction des zones qui étaient jusque-là protégées. En fait, nos villages qui sont jusque-là très sauvages, en fait, assez sauvages encore et assez préservés, c'est parce qu'ils sont très peu accessibles aux camions pour l'instant. Parce que cet accès routier n'existe pas. Et que les zones commerciales, c'est une... ça ne correspond pas. Donc il faut imaginer que les plaines et les plateaux vont être lotis en zone commerciale et probablement les flancs de collines en lotissement. En fait, il faut imaginer que les zones commerciales, ça ne correspond pas à, pareil, à un besoin des habitants. C'est simplement de la spéculation immobilière, en fait. C'est la pression de l'offre. En fait, les collectivités locales sont financées pas en grande partie par la taxe professionnelle. Du coup, les mairies reçoivent de l'argent des entreprises qui s'installent sur leur commune. En échange, elles donnent accès à des terrains. Elles rendent constructibles essentiellement des terres agricoles, parce que c'est des terres de plaine, pas très chères, pour que les entreprises puissent s'installer. Du coup, par exemple, on a le cas avec Auxilane, hein, à côté. En fait, les entreprises donc ont accès à du foncier pas très cher et ont beaucoup de facilité pour ça. Du coup, même si leur activité elle est pas rentable, c'est pas grave en fait. C'est des très grandes entreprises qui ont une énorme trésorerie. Du coup, ça peut vivoter comme ça pendant 10, 15 ans, 20 ans. Ensuite, ça tombe en friche et ensuite, c'est revendu pour de l'immobilier. Et du coup, beaucoup plus cher. C'est une plus-value de 20 au moins. Donc en fait, c'est vraiment simplement de la spéculation immobilière. Ça correspond jamais à aucun besoin des habitants. En fait, à travers le lien, on se rend compte que, puisqu'en plus c'est porté par le département avec de l'argent public, et les conséquences que ça va avoir des conséquences sur notre santé, puisque du coup en fait ça va pas réduire les embouteillages, ça va les augmenter énormément, et énormément augmenter le trafic routier, augmenter le fret par camion, puisque du coup c'est quand même l'autoroute, la 9 et la 75, c'est l'autoroute qui fait l'Espagne à l'Allemagne en fait, hein, donc c'est un énorme trajet, c'est énormément de camions. Ça va polluer notre eau, ça va augmenter après dans les villages à côté les risques d'inondation et d'incendie, hein, ça c'est évident. Et surtout, ça va rendre disponible à l'urbanisation énormément d'espaces qui sont des zones agricoles dont on a besoin pour se nourrir et des zones naturelles très précieuses, parce qu'il faut savoir que la zone du Bel Air, c'est la zone la plus riche en biodiversité de tout le nord de Montpellier. C'est la dernière qui reste en fait. Toutes les autres, elles ont été construites. Il reste celle-là. Et en fait, la Méditerranée, c'est la plus riche biodiversité d'Europe, et ça fait partie des 5 plus riches du monde. On est assis sur un trésor, vraiment. On ne se rend pas compte. Et donc tout ça, qui est notre bien commun, hein, notre eau, notre air, notre terre agricole, notre nature, en fait, elles sont bradées pour construire des zones commerciales et des routes et des lotissements. Du coup, qu'est-ce que c'est parce que du coup, le bien commun, en fait, de quoi on a envie de... comme vie, en fait. Je vais passer la parole à Guillaume Faburel qui va vous expliquer, vous permettre de faire le lien justement entre ce projet local qui a l'air d'être un tout petit projet et qui est en réalité intégré dans une logique d'urbanisation, dans un plan d'urbanisation très construit qui est le même dans énormément de métropoles et qui est beaucoup plus grand que juste cette route.
Merci. Merci pour l'invitation. Et bonsoir à tout le monde. Alors du coup, par où commencer? En fait, c'est ce que vient de décrire Anna est quelque chose de excessivement classique, en fait. Voilà. Je sais que c'est une entrée en matière pourrie. Hein, je dis franchement, on serait dans un monde classique. Il n'y a pas vraiment de créativité, d'invention, d'innovation, mais et pourtant c'est bien le cas. C'est-à-dire que ce qui se passe à Montpellier se passe à Bordeaux, se passe à Rennes, se passe. Alors, bien évidemment, les politiques urbaines peuvent un peu changer, mais néanmoins. Le trait commun, le plus petit dénominateur commun, c'est de considérer que nous aspirerions tous à vivre dans des espaces urbains métropolisés, que la métropole en soi, c'est pas la ville historique, c'est quelque chose qui s'étend et qui se densifie, et que pour ça, il faut accéder à un certain nombre de terres. Pour ça, il faut étendre le front pionnier et coloniser des espaces dits périphériques ou limitrophes, de telle manière à accueillir, alors tout de suite je mets un coin dans l'idée que nous serions tous des amoureux de l'urbain, tout ça est le récit du capitalisme, hein, soyons clairs, des deux siècles écoulés, c'est la ville qui crée par l'économie une activité et qui attire, parce qu'on a tous besoin, enfin, je ne sais pas vous, mais d'avoir un peu d'activité pour éventuellement accéder à certaines ressources. Bon. Du coup, ce métarécit de l'urbain sur les deux siècles écoulés, il a pour dernier visage celui définitif, total, de ce que l'on dénomme la métropolisation. Alors, la métropolisation, c'est un nom, moi j'ai intitulé le bouquin « Les métropoles barbares » pour les effets en cascade qui sont un peu délétères, j'y reviendrai. Mais la métropolisation, c'est en fait faire la totalité des terres au dessein de la grandeur urbaine et de nous embarquer là-dedans. Du coup, à l'échelle de Montpellier, ça donne quoi? Ça donne trouver des espaces libres. Ça donne étendre les fronts et les lisières par des équipements déstructurants qui, en fait, cas un cas, vont annoncer ce que pourrait être l'urbanisation à horizon de 10, 15, 20 ou 30 ans. Et là, j'attire votre attention sur le fait que ces effets déstructurants sont en fait les effets structurants du capitalisme. C'est-à-dire qu'on va créer un certain type d'activité économique, commerciale, on va façonner les vies qui vont pouvoir consommer, qui vont avoir le fétiche de la marchandise pour idéal type, et derrière tout ça se fait au détriment de plusieurs effets qu'on a déjà constatés ou qui ont déjà belle figure à Montpellier, hélas, qui sont d'un point de vue écologique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, c'est assez dramatique. Alors écologiquement, le front pionnier, cette extension, ah oui, juste une parenthèse, il y a un débat à la con. C'est un terme technique, excusez-moi. Il y a un débat qui est totalement inutile, qui vise à opposer écologiquement la densification intérieure avec l'étalement urbain. Vous n'êtes pas sans en avoir entendu parler. L'étalement urbain ne serait pas bon écologiquement, alors que la densité serait super. En fait, densité et étalement, c'est non pas une coïncidence des opposés, c'est une unité des contraires. C'est-à-dire que les métropoles densifient en interne en même temps qu'elles étalent en externe. Tout simplement parce qu'il faut grossir, accueillir. Sauf que la densification se fait pour certains types de populations, avec des gestes stars, avec des immeubles qui poussent de terre, avec des espaces publics qui sont devenus lisses, voilà, totalement ouverts pour le contrôle social et accessoirement d'une police qui est un peu réarmée, surtout en ces temps obscurs. Donc les centres-villes sont densifiés à l'adresse de certaines catégories de population, les classes créatives, les élites internationales, les cadres un peu surmenés, les classes moyennes qui se voient déclassées, pendant que les périphéries étendues, elles vont accueillir ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces centres, qui du coup se voient renchéris, parce que les populations, la loi d'offre et demande dont tu parlais, fait que on n'a pas tous les moyens de vivre dans ce monde idéal, fantasmé, que serait The Place to Be, la surdouée, avec tout le marketing territorial dont vous avez entendu parler concernant Montpellier. Mais on a le même marketing territorial, avec les mêmes mots recettes, les mêmes mots valises, je vous dis, hein, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, etc. etc. Bon, donc du coup, je referme la parenthèse, densité et extension, c'est un même mouvement, c'est un même mécanisme. Pour quels effets? Écologiquement, aujourd'hui, ça commence à arriver tranquillement, hein, parce qu'il y a un indicible. Il ne faut pas qu'on crache trop rapidement sur la grandeur urbaine. C'est le fait de civilisation, la grandeur urbaine, hein, d'accord? C'est quelque chose qu'on a tous en nous. Être urbain, c'est s'arracher d'une condition. Être urbain, c'est s'émanciper de quelque chose. Donc du coup, on commence quand même à en voir les effets écologiques. L'urbanisation généralisée du monde, la métropolisation du monde est la cause première de l'écocide dans lequel on est embarqué. Soyons clairs. Voilà. Alors après, on peut discourir pendant des heures sur est-ce que l'urbain, par la densité, permet pas aussi par moment de faire quelques économies d'énergie? Est-ce que le maraîchage urbain ou les ceintures vertes ne permettraient pas de redonner un peu d'autonomie alimentaire? Tout ça, c'est de la gesticulation. Voilà. Passer 30 ou 50 000 habitants, on ne peut pas faire autonomie, on ne peut pas faire corps avec le vivant. Donc il y a un problème de grandeur et de démesure. Voilà, on a pris la confiance depuis très longtemps, depuis trop longtemps, et c'est en fait ce qui est exactement, d'un point de vue imaginaire, en train de se réaliser lorsqu'on décide d'empiler les périphériques comme ça, de manière radioconcentrique, pour étaler le phénomène urbain, soi-disant pour accueillir des gens qui en auraient le désir. Non, ils sont en fait enchaînés à l'activité économique qui, par nécessité de rente immobilière et capitalistique, vient se localiser plutôt dans les espaces urbains, là où, a priori, la consommation est la plus proche. Bon. Donc, écologiquement, c'est dramatique. Mais de toute façon, on peut discuter, je vous dis, pendant des heures sur les effets. Je défie quiconque de me convaincre, ce soir peut-être, demain on verra, que le béton a une quelconque vertu écologique. Voilà. Et que l'artificialisation est bon pour le vivant. On peut en discuter. Mais là, il va falloir quand même s'armer de patience pour pouvoir me convaincre. Mais ce n'est pas le but de la soirée. Alors, restez avec vos opinions, j'ai les miennes, on se séparera, bons amis. Sociologiquement, c'est pathétique. Sociologiquement, ça trie les populations, ça évince, ça fragmente. C'est-à-dire que, comme il y a un renchérissement du coût d'accès, les plus nécessiteux, en tout cas les plus défavorisés, n'ont pas les moyens d'y résider. Donc du coup, vont de plus en plus loin, pendant que d'autres, aspirant à un petit coin de campagne, eux-mêmes décident de déménager. On a parlé récemment d'un exode, ou en tout cas de gens qui cherchaient à en partir. C'est certainement vrai, hein, mais ce n'est pas toutes les catégories sociales qui sont visées, ou en tout cas concernées. En fait, on assiste à une fragmentation. Il y a des phénomènes de gentrification qui s'opèrent, des quartiers entiers sans bourgeoises, au profit des profils de population dont j'ai parlé, et au détriment de ceux qui, les subalternes, les derniers dits de corvée, enfin tous les termes dont vous avez entendu parler, qui n'ont plus les moyens et qui, du coup, sont enjoints, finalement, d'aller peupler les espaces que le lien est en train de préparer. Voilà. Ça ne veut pas dire que ces espaces-là ne font pas désir. J'y reviendrai aussi. Ça n'est pas qu'un effet, on va dire, de détermination sociale ou économique. Il y a aussi aujourd'hui, surtout dans les pays d'Europe occidentale, un rejet croissant de la grandeur urbaine. Donc il y a de plus en plus de gens qui en auraient les moyens aussi, qui décident d'en partir. J'y reviendrai, ou peut-être qu'on le fera pendant le débat. Mais sociologiquement, ça évince. Sociologiquement, ça exclut. Spatialement, ça fragmente. Et ça, on le constate à Bordeaux, à Rennes, à Lille, à Lyon, etc., etc., etc. Et à Paris, n'en parlons pas, vous connaissez certainement mieux que moi. J'insiste quand même sur deux points en termes d'effet, du coup, qui me semblent quand même les plus complexes à saisir et en même temps les plus déterminants pour notre propre avenir. En fait, ce qu'annoncent ces fronts pionniers, ce qu'annoncent ces petits équipements à 100 millions d'euros, en pleine nature, hein, d'accord ? En disant, mais ça ne va rien changer, vous inquiétez. Pourquoi vous le faites si ça ne va rien changer ? Si, ça va changer les choses, alors dites-nous ce que ça va changer. Fondamentalement, on sait ce que ça change. C'est-à-dire que c'est un appel d'air à la croissance immobilière, c'est un appel d'air à l'offre commerciale, bref, c'est un appel d'air à l'urbain. Je n'y parle même pas d'urbanisation. En fait, la chose peut-être la plus pernicieuse, la plus dangereuse, c'est qu'elle nous convertit à l'idée qu'il y a quelque chose qui est du ressort de la grandeur à conquérir l'espace sans fin comme ça. En fait, en plus de l'écologie et la sociologie, il y a anthropologiquement quelque chose qui est du ressort de l'illimitation, de la démesure caractérisée. Et ça, c'est certainement le plus dramatique. C'est-à-dire que, grosso modo, on se nourrit et on se berce d'illusions sur l'infini des ressources que l'on est en train de consommer. Et c'est là où il y a un imaginaire, en fait, qui accompagne cette réalité. Cet imaginaire, c'est celui du développement et de la croissance. Voilà. Cet imaginaire, c'est celui de la métropolisation, mais d'une croissance qui se voudrait infinie dans un monde qui a quand même manifesté ou montré quelques limites d'ordre écologique, mais aussi dans d'autres domaines. Anthropologiquement, il y a des manières d'être, un genre urbain métropolitain, une manière de se conformer, d'être actif et d'être en action. C'est en train d'apparaître, cette chose-là. On l'a vu depuis les villes-mondes, on le voit depuis les métropoles, oui, parce que pour rappel, il y a 22 métropoles en France labellisées, hein, voilà. Mais le modèle générique, ce sont les villes-mondes, New York, Tokyo, Séoul. Bien évidemment, à Montpellier, on fait avec un peu plus de mesure, un peu plus de décence, mais néanmoins, on va chercher son architecte star, on va réviser l'espace public de telle manière à l'ouvrir, on va créer 2-3 petits écoquartiers pour dire qu'on fait de l'écologie, etc., etc. Les recettes, on les retrouve partout, d'accord ? Peut-être à moindre échelle, mais néanmoins, on exploite et on utilise les mêmes recettes. Donc, 22 métropoles à l'échelle nationale, le modèle, c'est la ville-monde, et à l'échelle internationale, vous avez à peu près entre 120 et 600 villes qui prétendent au statut de métropole. L'écocide, il est derrière ça. Partout, il y a de la fragmentation, de la gentrification. Partout, il y a ce modèle dominant, cet imaginaire du succès, de la croissance infinie et de la réussite qui frappe à notre porte. Le problème, c'est que le vivant est passé par là et que fondamentalement, nos manières de nous comporter, nos systèmes de consommation, les habitudes qu'on a prises sont des habitudes qui sont cultivées par l'urbain comme contre-écologiques ou anti-écologiques. Concrètement, dans l'urbain, c'est là où vous apprenez à vous rendre dépendant pour vous nourrir, pour vous chauffer, pour vous loger. Concrètement, dans l'urbain, c'est là où on délègue une puissance politique. On est trop nombreux, on ne peut pas faire communauté politique à 500 000 ou 1 million d'habitants. Ou en tout cas, je vous mets au défi de faire communauté politique à 1 million d'habitants. Forcément, il faut déléguer à une puissance, à une administration, à des savoirs techniques qui vont œuvrer en bétonnant et en coulant de l'asphalte. On est donc là, et c'est le dernier paramètre, politiquement c'est dramatique parce qu'on est dépossédé de notre propre puissance. Plus on est nombreux au même endroit, plus pour... Alors, la ville industrielle et historique, ça serait le lieu de la colère sociale. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec la métropolisation, c'est le lieu, en fait, de la déliaison. c'est le lieu où on est dépossédé de notre puissance d'intervention, de notre capacité véritablement à faire. C'est pour ça que tout est en train de se retourner contre le fait métropolitain. Un maraîchage périurbain, une ceinture verte, ça ne redonnera pas autonomie alimentaire. Les modèles tournent. Bristol, qui est comparable à Lyon, avec six fois moins de population, non pas six fois moins, autant de population, mais une surface qui est beaucoup plus large, en végétalisant à des fins alimentaires l'ensemble des espaces publics, privés et communs, n'arrive à nourrir que 30% de sa population. Voilà. Alors que la densité est six fois moindre que celle de Lyon. Toutes les comparaisons convergent pour dire que il ne peut pas faire autonomie, on ne peut pas faire souveraineté, on ne peut pas faire décemment écologie lorsqu'on a passé 30, 40 ou 50 000 habitants. Voilà. Et politiquement, le rouage, il est là. En nous dépossédant de notre capacité à le dire et à le montrer, eh ben on est enjoint de toujours plus s'agglomérer, se polariser et s'entasser au même endroit. Voilà. C'est ça la barbarie des métropoles. C'est de tous nous embarquer dans un récit de grandeur qui en fait est en train de flinguer la planète, qui a déjà commencé largement à flinguer la planète. Du coup, ce qui se joue derrière, vous allez dire, il va un peu vite en besogne, c'est un ascenseur émotionnel son truc. Il part du lien qui est juste à côté pour nous dire que la fin du monde est annoncée. Alors, on va reprendre les étages deux à deux, mais fondamentalement, c'est par tous ces gestes-là, en fait, que c'est en train d'arriver. C'est ça. Et ça pullule. Pour information, tous les mouvements de protestation, d'opposition sont justement aujourd'hui aux lisières des métropoles. Parce qu'on a bien compris que le front urbain est en train d'avancer. On a bien compris que la néocolonialité territoriale contre-écologique se joue à ces endroits-là. Voilà. Je vous rappelle juste qu'à Paris et dans le Grand Paris, ils sont en train de construire des clusters à Saclay notamment, en excavant de la terre, et la terre, de belle facture, hein, biologique, est en train d'être rapatriée dans Paris intramuros, lorsqu'on a décidé de légèrement débétonner pour pouvoir revégétaliser. C'est-à-dire qu'il y a des camions entiers d'humus qui circulent entre les périphéries proches et le cœur de la ville. Voilà. On est en train, c'est un vortex, c'est en train de tout digérer. Et des choses comme ça, vous en avez des centaines et des centaines. Alors, ce n'est pas dire qu'il y a un complot, qu'il y en a un qui nous dirige comme ça. Non, c'est le capital dans sa dynamique, fondamentalement. C'est le système économique dans lequel on essaye de survivre. Mais aujourd'hui, on a une limite qui est une limite planétaire, celle de la reproduction et des formes de vivants dont nous sommes théoriquement les véhicules, plus que les possesseurs. Du coup, c'est bien au front pionnier que les oppositions sont en train d'aujourd'hui de se constituer. Ce qui me permet de dire, et je conclurai peut-être sur ce paramètre politique, par ce point-là, que en fait, vous avez aujourd'hui une multitude de résistances, de luttes et d'oppositions, voilà, à ce mécanisme-là. Voilà. Certains de l'intérieur vont lutter contre l'hubris consumériste. Dire que prendre l'avion, le TGV, rouler en bagnole toute la journée, et je ne vise que les transports, ça pose quand même un peu question. Déjà à nos vies, et accessoirement, à notre survie dans notre environnement. Mais au-delà de l'intérieur des villes, avec des mouvements, des activismes ou des formes de militance écologique renouvelée, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que, justement, aux lisières de ces métropoles, là où il y a des points chauds, là où il y a des enjeux de première catégorie, c'est justement là où des formes renouvelées d'engagement et d'action se réalisent. Mais pas forcément dans l'opposition frontale, dans le corps à corps permanent avec les systèmes de police et du gouvernement des corps. Non, il s'agit en fait de montrer qu'il existe des alternatives, fondamentalement. Des alternatives qui cultivent le vivant, qui ont d'autres rapports à la Terre, qui en fait essayent de travailler autour de quelques communs, puisque Anna parlait de communs, nous on en a vu trois fondamentalement en accompagnant ou en allant observer sans trop perturber les collectifs et les communautés qui se sont installés à ces endroits-là. Et je vous dis, aujourd'hui, en France, on en dénombre plus de 6000. D'accord ? Et c'est très large. Hein. Écolieux, éco-hameaux, avec plutôt des niveaux de ressources culturelles et sociales assez élevés. Des communautés intentionnelles existentielles avec des squats. Là, on est sur des ressources dites sociales et économiques moindres, mais culturelles, qui sont assez comparables sans être totalement voisines. Bref, il y a une diversité de prises à la fois sociale et culturelle, une diversité de types de collectifs qui en fait vont partager trois communs. Un, ne plus s'en laisser compter sur le métarécit dont je viens de parler, et d'habiter autrement la Terre, en refaisant corps avec le vivant. Ça joue un rôle tout à fait déterminant. L'alimentation, mais pas que. Le biosourcé, les formes d'habitation, etc., etc., jouent un rôle tout à fait déterminant. Deuxième commun, coopérer. Pour cesser la consommation et la concurrence à tout craint. Et là, ce sont des savoir-faire généralement appliqués ou héritiers de la terre que l'on va mettre en partage. Mais chacun, en fait, est porteur de ses propres compétences et donc va les mettre à profit. On n'est pas tous maçons ou boulangers s'il s'agit de faire autonomie. Donc la coopération joue un rôle tout à fait déterminant. Et le troisième qui est déterminant, enfin le plus essentiel de mon point de vue, parce qu'il conditionne la réalisation des deux autres, c'est l'autogérer. C'est-à-dire que le désir d'autonomie va jusque ce besoin de refaire communauté politique. Voilà. C'est-à-dire de ne plus s'en laisser compter en s'autodéterminant et en fixant soi-même un peu les règles de fonctionnement du dit collectif, sans pour autant toujours faire sécession, soyons clairs. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des liens avec les autorités locales ou les institutions, pour rester branché de temps en temps à quelques réseaux lorsque ça en est utile. Donc habiter, coopérer, autogérer sont aujourd'hui des formes de lutte qui sont en train de peupler tout l'espace hexagonal. Voilà. Selon des modalités d'entrée en politique variables, selon des tailles qui sont bien heureusement inférieures à des millions d'habitants, sinon ça serait, et deux, ça serait totalement contre-productif. D'accord ? On est plutôt des groupes de 10, 200, 250, de 200. Ça peut arriver à aller parfois au-delà, mais assez rarement. Et ces manifestations-là, ces types d'opposition et de résistance, en fait, se retrouvent dans un nombre incalculable de pays. Je ne sais pas si vous avez vu, je terminerai là-dessus, au titre de « il faut encercler pour démanteler », parce que c'est ça qui est en train de se jouer. À un moment donné, il y a bien à s'opposer sur chacun des points chauds périphériques, de telle manière à bloquer le deus ex machina. Et je vous dis, il n'y a pas de complot derrière. C'est le capital qui a besoin de croître. On est d'accord ? En fait, ce qui s'est passé en Inde avec le mouvement paysan traduit cette réalité-là. Mais les Santerres au Brésil avaient déjà montré la voie. Au Chiapas, ce sont bien des formes autogérées gouvernement qui permettent aujourd'hui de faire barrage à l'extension de la grande agglomération. Dans tous les cas de figure, vous avez, par l'habiter, le coopérer, l'autogérer, une forme de reconsidération et de reprise du vivant comme, en fait, matrice politique. Ce que le capital, justement, nous a, ce dont le capital nous a dessaisis, nous a dépossédés, tout simplement pour que nous cessions d'être en politique, fondamentalement. Du coup, et je terminerai sur ce point, s'il y a dans les périphéries proches des zones de résistance qui ne cessent de se multiplier et qui partagent quand même quelques valeurs et principes communs, quelques modes d'intervention que l'on peut rendre comparables, fondamentalement, il s'agit bien au bout du bout d'une question d'ordre démocratique. Comment on s'engage aujourd'hui ? Voilà. Et comment on interpelle les autorités ? Certes. Comment on pénètre les institutions ? J'y crois pas plus que ça. Mais néanmoins, certains y croient. Tant bien leur face, on verra bien, rendez-vous dans 10 ans. Mais surtout, en bloquant à un moment donné l'avancée du système. Et ça ne peut passer du coup que par l'interpellation, mais plus encore, l'occupation. Les lieux sont devenus des endroits où, par l'habiter, le coopérer et l'autogérer, on peut encore peut-être imaginer refaire décemment politique et corps avec le vivant. Et c'est là où ce type d'initiative à une grandeur d'âme, certes, mais surtout une portée politique qui va bien au-delà des quelques kilomètres dont Anna a parlé. Voilà. Voilà pour ce qui a été constaté sur le fait de métropolisation. Le propos est revendiqué comme engagé, j'y souscris à 200% à l'unanimité de moi-même. Hein, d'accord ? Donc on pourra en discuter, mais aujourd'hui, tous les constats convergent pour dire que la métropolisation du monde est un écocide caractérisé. C'est dans l'urbain et sa grandeur que on a pris ou que l'on est entré en démesure, que le capital est en train de muter, que nous, notre habité est en train d'évoluer excessivement rapidement dans une artificialité consommée, dans des systèmes de marchandises qui ne cessent de se renouveler. Et pour que cette marchandise-là continue à être notre fétiche involontaire, puisqu'on se soumet dans une désobéissance qui est par moments un peu limitée, eh ben, il faut bétonner l'ensemble des lisières, des marges et des frontières. C'est le seul moyen d'étendre le front urbain et de continuer à faire de la croissance urbaine le seul et l'unique idéal qui nous est proposé. Voilà, je vous remercie.
En fait, si on vous a fait venir aussi ce soir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les villages à côté, tout ça, et c'est aussi... c'était le sous-titre de « Est-ce qu'on a envie de vivre dans des cités dortoirs ou dans des villages vivants ?» En fait, à travers la contestation du lien, se sont aussi développées des propositions alternatives. En fait, si on ne fait pas le lien, parce que du coup, on se rend compte qu'il ne va pas remplir ses objectifs pour lesquels il est fabriqué et va en fait être très préjudiciable à nos vies quotidiennes, et y compris, surtout, à nous, riverains très proches, en fait, hein, ça va transformer nos paysages, nos manières de vivre, ça va complètement notre mode de vie. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Aussi, déjà, pour ne pas en avoir la nécessité. Donc, il y a la gestion des flux de transport. Donc, on sait développement des transports en commun, alternatifs et tout ça. Mais il y a aussi la réduction des déplacements. En fait, et comment on fait pour moins avoir besoin de se déplacer? Donc, moins construire de zones commerciales où on peut aller qu'en voiture, mais des commerces de proximité. En fait, c'est aussi revitaliser nos villages avant que ça devienne que des cités dortoirs, en fait. Si on n'a pas envie de faire juste le trafic pendulaire de partir de chez soi pour travailler, aller à la métropole en voiture et aller faire ses courses au supermarché en voiture, en fait, si on a envie de, il faut relocaliser et revitaliser nos villages. Avec l'agriculture, les commerces, les lieux de sociabilité, mais aussi le travail. Et le travail, du travail qui a du sens aussi, en fait. Et donc, on a fait une assemblée citoyenne où on a développé pas mal de possibilités. Et j'aimerais bien aussi que vous puissiez vous exprimer sur, en fait, dans quoi on a envie de vivre, dans quel genre de village on a envie de vivre, quel mode de vie on a envie d'avoir, en fait. Et parce que, en fait, c'est pas trop tard. Nous, on pense que c'est pas trop tard, qu'on peut s'opposer, qu'on peut proposer d'autres manières de vivre qui sont plus en respect. De l'écologie, mais aussi des personnes. Voilà.
Et la mobilité joue un rôle déterminant.
Oui, hein, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la mobilité. Peut-être, comme il n'y a pas beaucoup de câbles.
Je vais parler comme ça.
Ok.
Alors, ça va être un peu décousu, en fait, ce que je vais dire. C'est environnement, mobilité, transport, mobilité, transport, mobilité, transport, mobilité, transport, mobilité, tout ce que vous avez dit.
Ils n'entendent pas.
À l'autre, il est plus grand. Tu veux bien
faire monsieur Mifron?
Ah. Deux secondes, pardon, on a...
Ça a enchaîné tellement vite.
Bah oui, on est... Tu vois. Une seconde. Petite seconde. Il est un peu brusqué.
Là, ça marche, non?
Un test, ouais.
Ah ouais.
Bon, c'est par rapport à ce que vous disiez.
Ça fonctionne.
Et à ce que nous, on vit. Alors... Nous sommes deux là et nous venons de la partie du lien qui a déjà été construite, c'est-à-dire nous faisons partie du village d'Assas. Et nous, ce que nous a apporté le lien, c'est avant tout la décharge, qui est celui de la Castries, mais qui est très près de chez nous. Donc ça a été un effet du lien, ça c'est sûr. Et on reste encore un village, mais là, les projets arrivent avec... Déjà au début c'était 120 logements sur 2 hectares, donc on a fait diminuer. Et la seule chose qui pour l'instant marche pour nous, ce sont les recours. Mais c'est pas satisfaisant. C'est vrai qu'il y a des tiers-lieux, etc. Mais dans le village, les gens sont plutôt âgés ou travaillants. Donc ce sont pas des. C'est difficile de faire. De donner du temps et d'y passer, comme par exemple au Jardin de la Reine, où il y a vraiment eu, entre des retraités, des jeunes, une occupation, etc. Et ils ont réussi à faire quelque chose. Nous, on n'est pas du tout dans ce profil. Et il y a aussi la culpabilité. C'est pour ça que je dis que je suis un peu, ça va être un peu décousu, mais c'est parce que je finis par plus savoir quoi faire, à plus savoir comment faire, parce qu'il y a une culpabilisation. Donc c'est GGL, etc. Enfin, ils sont tous, quoi. Et puis quand ils auront commencé à bien densifier, ils continueront. Ça, on n'a aucun doute... alors, soi-disant, le plus des limites à plus 500, mais en fait, bah, une fois que ce sera plus 500, on fera un autre plus. Et donc, alors que nous, on reste un village. C'est-à-dire que l'esprit de village, nous, on n'a pas à le reconstruire, il existe. Et alors, on nous culpabilise parce que oui, vous ne voulez pas que des gens viennent. Ensuite, il faut voir les prix, quoi. Parce que les terrains à côté à Téhéran, on le sait, ça a été acheté entre 60 et 80 euros le mètre carré. Et juste avec la viabilisation, c'est vendu à 360 000 euros les 500 mètres carrés. Voilà, il faut se rendre compte du delta que font les promoteurs en ce moment. Et quand nous on dit non, c'est pas possible, quoi. Oh, alors faisons des lotissements communaux. Enfin, surtout que nous en plus on vend. Alors là, ça c'est le bouquet dans un des endroits. La mairie veut vendre aux promoteurs de la terre communale. Donc là, c'est, par contre, on vend à 1 hectare 330 000 euros. Donc et on donne aussi aux promoteurs de l'argent qui a été économisé, mais pas pour faire juste la structure du lotissement. Et quand nous, on s'oppose, on dit « Oui, mais vous voulez pas que les jeunes puissent habiter au village ?» Et alors, les bras nous en tombent, quoi, parce qu'on ne sait plus comment faire. Et les recours, y a un recours, deux recours, il y a un appel, et après, on fait quoi, quoi ? Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur Montpellier, il n'y a pas trop l'amour de la ville. par rapport à d'autres villes, beaucoup de gens sont venus. Alors c'est autour, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à 60 km de la ville. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus de Paris, de Lyon, etc., à Montpellier, pour avoir, pour habiter dans ces zones comme ça, quoi. Donc il y a peut-être moins qu'ailleurs un amour de l'urbain, au milieu de la ville. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Hein.
Est-ce que quelqu'un a envie de répondre ou bah toi?
Juste pour compléter sur le prix, que vous sachiez pour le lien, quand le département a acquis à l'heure actuelle les terres agricoles qui sont irriguées, il les achète à 2 euros le mètre carré. Donc la spéculation immobilière pourra avoir bon train. D'où les propositions citoyennes qu'on a élaborées ensemble la dernière fois, qui étaient de dire que tout ce qu'avait acquis le département, ça serait bien qu'au lieu que ça construise les routes, ça soit utilisé en régie publique pour défendre les biens communs et que ça soit utilisé pour les écoles, pour que les écoles puissent faire des jardins ou qu'on puisse utiliser ces terres comme un observatoire de la biodiversité dans la Garrigue. Donc voilà, il y a des propositions, je pense que même si elles ont l'air... effectivement, quand on parle de plus et de recours juridiques, on a l'impression que c'est infini. Et en même temps, je pense qu'il y a des combats qu'il faut continuer. Et qu'à l'heure actuelle, vu qu'il y a quand même une conscience de la limite de la planète et des ressources, c'est peut-être le moment pour essayer d'en parler. Et donc, un projet comme le lien qui date de 30 ans, qui était avant acceptable, parce qu'au fond, c'était normal, tout le monde était pour prendre les voitures. Plus ça va, plus on peut se poser la question, d'autant qu'effectivement, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui habitent l'extérieur pour respirer. Donc avec le Covid, on a bien vu que tout le monde s'en va des villes. Et donc du coup, moi j'ai une question, là c'était pour vous compléter, mais j'ai une question pour vous. Dans votre modèle, il y a quelque chose que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est que si la métropole est un mauvais modèle, on l'a bien compris, qu'elle est capable même de tout récupérer, puisqu'elle récupère les tiers-lieux, elle récupère tous les imaginaires de contre-culture, et bien à ce moment-là, vous imaginez quoi? Des modèles de villes moyennes, de villages comme Assas, qui seraient préservés et les métropoles, les gens qui habitent les métropoles, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, est-ce qu'ils vont coloniser à nouveau la campagne? C'était une question qui m'est venue en vous écoutant.
Je voulais juste se rendre compte aussi du changement de la population française. Bon, il y a des tas d'évolutions démographiques un peu partout. Mais quand même, en Europe en particulier, là, la population est en train de se contracter. On a de moins en moins d'habitants parce que il y a moins d'enfants. Donc bien sûr, notre population vieillit. Et donc on va avoir un moment où on va vider un peu le territoire. On le voit déjà dans certaines zones. Et donc là, c'est un mouvement vers le sud, ça c'est vrai. Et donc peut-être qu'il faut aussi réfléchir à l'horizon de qu'est-ce qu'on développe puisqu'on va avoir une population plus petite. On peut rêver d'une grande ouverture à l'immigration, mais enfin bon, pour l'instant, c'est pas là. Ça n'a pas l'air d'être l'atmosphère. Hein. Et j'ai une deuxième remarque qui est que dans les villes, moi j'habite Paris, maintenant le grand programme, La grande histoire, c'est la ville du quart d'heure. Alors on l'a vu, on le voit même à New York, hein, où se développe l'idée de, on va recontracter aussi l'espace. Et la ville du quart d'heure, c'est qu'on fait des sous-villes dans une grande ville, on refait des petites villes. Et c'est intéressant peut-être que de prendre ces deux évolutions, il me semble, à apporter dans une discussion justement plus de ces métropoles françaises, où j'ai l'impression qu'on est encore sur le modèle d'extensification et de grignotage de la terre, alors que le mouvement est en train de se renverser ailleurs, pour ces deux raisons, en fait. Et il y a un aspect anti-moderne de ces métropoles aujourd'hui, de se dire on va continuer comme avant. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte que ce lien, c'est un très vieux projet, en fait, et que c'est peut-être le moment de le réviser. Mais donc, je me disais comment... comprendre cette évolution démographique qui va avoir un énorme impact, hein, notamment sur tous ces villages où les gens vont partir et on va avoir des friches parce qu'il n'y aura plus personne pour habiter. Donc, je sais pas. Donc,
Est-ce que tu veux reprendre déjà? Non, c'est bien.
très bien.
Alors moi, je veux bien faire une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit. Premièrement, la population de la France, elle n'est pas du tout en train de décrécir. Hein. Il y a de plus en plus d'habitants en France tous les ans. Au point de vue de l'Europe, peut-être que oui. Au point de vue de l'Europe, tous les ans, il y a de plus. Enfin, au point de vue de la France, tous les ans, il y a de plus en plus d'habitants. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on peut recentrer un peu le débat. Hein. C'est-à-dire que peut-être le plus important, c'est peut-être pas de se dire à combien coûte le mètre carré ici. Et le plus important, c'est de savoir comment sauvegarder en fait les coins de nature qui restent et qu'il est vraiment là le débat. Et que ça sert à rien de se dire à combien ça va nous coûter et combien on va te perdre. Ça, c'est juste une pensée qui est complètement individualiste. Et qu'à un moment, en fait, il faut juste recentrer d'une manière beaucoup plus globale et pas juste à combien, qu'est-ce qui va nous toucher nous, mais à, enfin, en tant que personne et d'individuel. Et plus ce qui va se passer aujourd'hui pour l'ensemble de la population et ce qui va se passer pour les générations à venir. Et l'important, c'est pas combien ça nous coûte. L'important, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a des villages qui vont être avec des friches. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour le vivant. Et il est vraiment là le problème. Et que je pense que l'on a une. C'était hyper bien en fait ce qui s'est passé, ce qui s'est dit tout à l'heure en fait comme présentation sur la présentation de tous les enjeux qui se passaient ici et qu'il faut peut-être pas tous le rapporter juste à notre propre cause, à notre propre génération, mais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand et que c'est quelque chose qui va toucher les générations à venir. Et là je viens pas pour poser une question, je viens juste pour essayer de recentrer le débat et que je pense que le problème il est plutôt là. Voilà, tout simplement.
Alors du coup si je peux. Oui, je n'ai pas affirmé ou confirmé, mais il n'y a pas de rétrécissement démographique. Il y a un abaissement du rythme de croissance dite naturelle. Voilà. Mais on va continuer à croître à un rythme moins élevé qu'on connaissait, mais le nombre d'habitants va. Non, en fait, pour rebondir, pour peut-être faire lien entre les trois, il s'agit donc de faire prospective un peu, de savoir, et après je viendrai à la ville du quart d'heure, qui est ma fascination personnelle, je vous le dis franchement. Un peu de prospective, c'est compliqué de lutter contre l'ensemble des forces qui, économiques et politiques, concourent à nous laisser croire que l'urbanisation est salutaire collectivement. C'est très compliqué. Parce que tous les mécanismes, toutes les médiations fétichisées du capital sont là. Hein. La propriété, la monnaie, la marchandise, les institutions, l'éducation, l'école, tout converge vers ça. Où vos enfants, si vous en avez, vont faire leurs études. Il y a une vieille idylle entre les villes densifiées et les universités. Et c'est en tant qu'ancien chercheur que je vous dis ça. Vous pouvez tout prendre, toutes les médiations fétichisées convergent vers l'urbain, fondamentalement. C'est là où les régimes de propriété sont nés, fondamentalement. C'est là où les institutions s'implantent, symboliquement, pour faire gouvernement. Bon, je referme cette parenthèse-là. Donc du coup, se pose la question de quel serait l'avenir désirable. Comment pouvons-nous éventuellement démanteler ces choses-là, si tant est qu'on puisse partager cette idée, ou en tout cas les rétrécir. Et que faisons-nous du coup des gens qui... aspire encore à y être, ou en tout cas ne se pose pas les questions sous cet auspice-là, parce qu'il y en a quand même un paquet. Hein. C'est là où, à mon avis, se joue finalement l'enjeu premier de l'écologie et du vivant. C'est-à-dire que je fais le lien avec la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure nous propose quoi ? De créer des villages en ville. C'est gentil, mais il y a des villages en dehors des villes. Déjà, il faudrait aller voir comment ça peut fonctionner. Le quart d'heure, il existe déjà. Donc il s'agit d'importer, de ruraliser les mondes urbains. De ruraliser, mais de ruraliser d'une certaine manière. En rythme de vie, en animation locale, en esprit de quartier. Mais qu'est-ce qui manque à la ville du quart d'heure ? Et Moreno, il passe sur tous les plateaux, il commence sérieusement à tous nous gonfler. C'est l'écologie, fondamentalement. Vous ne faites pas du quart d'heure un rapport au vivant qui serait décent. S'il s'agit de vivre à l'échelle d'un quartier toujours plus artificialisé et bétonné pour aller dans son petite recyclerie ou son vrac ou éventuellement sa petite épicerie bio, mais l'épicerie bio qui fait venir de éventuellement 150 km parce que l'urbanisation est telle qu'on n'a plus de terre à proximité pour pouvoir éventuellement faire autonomie et soi-même cultiver. Imaginez comment la ville du quart d'heure est un non-sens écologique. Voilà.
Est en train de.
Oui, sauf que c'est là où ça devient pernicieux. C'est que on est en train de nous vendre un récit d'adaptation, de transition et de résilience. On est en train de nous dire que la métropole a les ressources intérieures pour pouvoir dépasser les limites qu'elle a en fait totalement encastrées en nous, hein, fondamentalement. Alors du coup, quel serait le modèle alternatif ? Ben, le modèle alternatif, alors ça c'est depuis la Mésopotamie antique jusqu'à aujourd'hui, on s'est délibérément depuis les écrits d'une anthropologie culturelle ou d'une archéologie tropicale, que c'est dans nos contrées, sous nos latitudes, dans nos écosystèmes, il ne faudrait pas dépasser 30 ou 40 000 habitants. Voilà. Et il ne faudrait pas être en dessous de 2000 à 3000, parce que c'est là où théoriquement les savoir-faire, avec ce nombre minimal, peuvent être réunis de telle manière à faire collectif et communauté. Donc après, on peut regarder continent par continent. Mais globalement, il faut diviser par 10 la taille des villes. C'est à peu près ça. On parle bien des métropoles à 200, 300, 400 000 ou 500 000 habitants. Comment fait-on ? Ça, c'est la question. Mais l'exode urbain, qui en fait est engagé depuis une quarantaine d'années à bas bruit et qui s'est vu accéléré par la pandémie, donne quelques voix. Aux États-Unis, on parle de grande dispersion en 2020. Hein, d'accord ? Rome a perdu 30% dans ses quartiers centraux de population. Le gouvernement anglais annonce 300 000 londoniens qui partent en 2021 de la grande agglomération de Londres. Il y a quand même des indicateurs et des signaux qui tendent à montrer qu'on se pose des questions. D'accord ? C'est pas non plus des cohortes sur les autoroutes qui décideraient de partir, mais à bas bruit, et dorénavant de moins en moins à bas bruit, il semblerait que ça commence à poser question. Et du coup, quel est le modèle alternatif que l'histoire nous enseigne ? C'est celle des 3 à 30 ou 40 000. Mais 3 à 30 ou 40 000, et je terminerai là-dessus, s'il s'agit d'y aller avec son SUV pour réclamer la 5G, avoir sa piscine chauffée, et éventuellement, parce que ça coûte moins cher d'avoir 150 mètres carrés au lieu des 40 qui nous sont proposés éventuellement dans les centres urbains, autant pas bouger, hein, rester dans la métropole. Ça veut donc dire que le pari, il est de retisser des liens avec le vivant, de renouer des liens avec la nature. Et là, il faut être clair, c'est pour ça que je parlais des collectifs. Les collectifs mettent finalement la question écologique en débat, d'une autre manière. Pour moi, le maître mot derrière ça, pour avoir un modèle alternatif, c'est l'autonomie. À quel moment on se rend dépendant des chaînes économiques, des chaînes urbanistiques, des chaînes techniques pour pouvoir continuer à vivre ? Se déplacer de manière incessante, se divertir par écran interposé, être connecté toute la journée, c'est bien un modèle de vie qui nous a imposé. Donc de 3 000 à 30 000, c'est peut-être, c'est un pari hein, qui n'est pas de Pascal, mais c'est un pari qui vise à dire qu'en retissant des liens avec le vivant, on va peut-être se désaliéner un peu ou décoloniser quelques imaginaires que nous avons tous à notre corps défendant en fait embarqués et que nous cultivons au quotidien. Hein. La question d'Anna sur la mobilité, le principe... Le véhicule anthropologique du discours dominant, c'est d'être mobile. Voilà. Mobile par ascension sociale, mobile de nos corps pour pouvoir aller chercher un emploi et effectivement bénéficier éventuellement d'un ascenseur social. La mobilité, il y a 3 ou 4 véhicules anthropologiques qui sont vantés depuis un siècle durant, et l'exode rural vers les villes était bien un produit de la mobilité, c'était imposé. Hein. Dorénavant, il faut rendre ses bras à la terre, pas avec les cerveaux qu'il y a avec, parce que les urbains ne savent pas pratiquer la terre, soyons clairs, ça va être dramatique, catastrophique, mais c'est bien la question de être mobile qui joue un rôle déterminant dans notre manière de penser, la fluidité, la labilité. Et derrière la fluidité et la labilité, c'est les intérêts financiers, c'est la promotion immobilière, c'est le déstockage généralisé du patrimoine, c'est toutes ces choses-là en fait qui se jouent. Donc, relocaliser, décentraliser, déconcentrer, c'est en fait décroître fondamentalement comment on organise la décroissance. Voilà, c'est ça qui se joue. Et lutter contre le lien, c'est simplement s'opposer à la croissance infinie et avoir un projet de décroissance par une relocalisation. À l'échelle d'une vie, à l'échelle d'un lieu, comment on refait corps et comment on se rend moins dépendant des chaînes urbanistiques, économiques, techniques qui nous ont en fait laissé croire qu'on pouvait continuer sans fin à faire venir de l'autre bout du monde et à commander d'un clic ce qu'en fait, on n'est plus capable de produire soi-même. Voilà. C'est réviser nos besoins. Le local, c'est à un moment donné avoir un peu plus de pertinence ou de vigilance sur quels sont les besoins qui nous sont essentiels et ceux qui sont moins essentiels, ceux qui nous sont utiles et ceux qui le seraient moins. Et c'est là où je termine. En partant des grandes villes, on peut faire le pari que ça va décoloniser, qu'on va devoir désapprendre pour mieux réapprendre un certain nombre de choses. En tout cas, être en conscience sur le taux d'effort, sur l'empreinte écologique de nos propres comportements. Parce que les villes nous ont complètement arraché de cette chose-là. On n'a plus du tout conscience de l'impact écologique de prendre l'avion peut-être de temps en temps, de se déplacer en voiture régulièrement, de faire venir de très loin ou d'aller consommer dans un supermarché. Voilà. On a en fait des pensées qui sont totalement contre-écologiques ou a-écologiques. C'est même pas entier, c'est a-écologique. On a plus cette dimension-là que d'autres pouvaient avoir sans pour autant revenir en arrière. Et ça, c'est toujours le discrédit des débats autour de la lampe à huile et des Amish. Voilà. C'est comme ça qu'on discrédite le discours de la Terre aujourd'hui en disant « vous êtes des anti-modernes ». Mais vous voyez la modernité à quoi elle nous a conduit. Donc, en sortant de ce débat crapuleux entre anti-moderne et moderne, et voyons concrètement comment on peut continuer éventuellement à faire humanité sur cette Terre. Moi, je pense que c'est pour reprendre ce que disait le jeune homme, c'est bien à ce niveau-là qu'il nous faut placer le débat, en fait, fondamentalement. Voilà. et prendre conscience qu'une micro-lutte à un endroit donné interagit avec cette chose-là.